Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on les commente, ces immanquables, avec Rémi Barré, Jérôme Lavrieux, Pierre-Édouard Magnan et Daniel Riolo. Et on va commencer tout de suite, Rémi, avec l'impasse du jour.
L'appel d'offres lancé par la Fédération de football pour les droits TV de la Coupe du Monde féminine n'a toujours trouvé aucun preneur. La compétition se déroule en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août prochain. Alors, l'écueil qui se présente, c'est que surtout les compétitions seront diffusées, enfin, les matchs sont diffusés le matin.
C'est ça.
L'après-midi. Et du coup, vu les prix qui circule sur le coût que ça engendrait, on dit entre 15 et 20 millions d'euros qui seraient demandés par la FIFA, ça n'intéresse personne pour l'instant.
C'est 6 fois moins que pour les hommes, mais effectivement, on risque aujourd'hui en France de ne pas pouvoir voir la Coupe du Monde féminine. Oui. Ce serait quand même une catastrophe, Daniel. Alors qu'on on mise sur l'essor du football féminin, et si on ne peut pas regarder la Coupe du Monde, évidemment, c'est un problème.
En fait, ça pose plusieurs questions. Vous avez d'un côté la FIFA qui dit qu'elle veut absolument promouvoir le sport féminin, enfin le foot féminin. Donc ils poussent limite jusqu'à l'agression verbale des diffuseurs en disant que c'est un scandale, qu'ils ne font rien pour acheter. Ils ont un chouïa baissé le tarif, mais ils veulent pas baisser complètement. Rappelons quand même quelque chose qui est très important, c'est que la Coupe du Monde va avoir lieu en Australie et Nouvelle-Zélande et que donc les horaires de diffusion vont poser problème.
C'est ça, c'est ce qu'a dit Rémi.
Parce que ça va être matin ou midi. Oui, Rémi l'a dit, mais il faut préciser quand même que pour certains diffuseurs, je sais pas, prenons TF1 qui diffuse la Coupe du Monde masculine, à ce temps-là, ils ont des émissions qui font de l'audience, des jeux. Et si le football féminin marche, parce que les matchs qui sont diffusés sur M6, c'est entre 1 et 2 millions à chaque fois, parfois des pics à 2 millions et demi, bon. Ça suffit pas à faire la différence par rapport à ce que diffuse TF1 à ce moment-là.
Oui.
Donc aller payer 15 millions, c'est beaucoup par rapport à ce que leur coûtent les programmes qui sont diffusés à ce moment-là. Mais quand on dit et quand arrive la polémique relayée par, j'ai lu une interview de Marinette Pichon, ancienne joueuse de foot de l'équipe féminine, qui dit c'est un scandale, il faut absolument que les chaînes achètent. Oui, d'accord. Bah, vous n'allez pas demander à une chaîne privée d'acheter quelque chose qui ne va pas lui rapporter de l'argent. Donc, finalement, tous ceux qui veulent absolument faire la promotion du sport féminin dans un ensemble, parce que la ministre a également exprimé à ce sujet en disant que c'est pas bien, que c'est scandaleux, qu'on faisait rien pour l'égalité, ceci, cela. Ok, très bien. Eh bien, dans ces cas-là, il faut obliger le service public.
C'est ça.
Que le service public sorte le carnet de chèque et l'achète. Sauf que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de voir la Coupe du Monde féminine. On ne va pas non plus, en plus, obliger les gens à se mettre devant la télé pour regarder ces matchs-là. Donc, cette égalité à marche forcée... Je trouve que c'est un petit peu gênant.
Jérôme Lavrieux.
Ouais, mais enfin, si on prend le même raisonnement, si on avait pris le même raisonnement, et comparaison n'est pas raison.
Oui, bien sûr.
On aurait diffusé les Jeux Olympiques et on n'aurait jamais diffusé les Jeux Paralympiques. Donc c'est pour ça que le service public est là.
Ouais.
Et les obliger, enfin, il y a suffisamment de chaînes du service public pour avoir un canal qui soit réservé.
Mais tu les obliges à payer 20 millions, c'est nos impôts. Quand même.
Non, mais je pense qu'il faut renégocier le prix.
Et
je
pense que
c'est ce que dit.
Je finis. Je pense que la FIFA aurait été beaucoup plus intelligente si elle avait dit OK, vous voulez la Coupe du Monde masculine, mais c'est un package avec les deux.
Exactement.
C'est ce qu'ont fait les fédérations olympiques.
Exactement.
Si vous voulez la CIO, les Jeux Olympiques valides.
C'est ça.
Ce qui rapporte, en termes d'audience, si ce n'est en termes d'argent, vous devez diffuser un mois après la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Et s'ils avaient fait le package, dans le prix global, ça se regardait et ça aurait été un peu plus intelligent.
C'est ça.
Ça aurait pu être une solution, même si l'horaire est, encore une fois, assez problématique pour les audiences.
On oblige si le service public ou pas, Pierre-Édouard Magnan, ou à payer 20 millions d'euros, ou on s'en passe?
Si on considère que la promotion du sport féminin en général et du football féminin en particulier, y compris notamment d'un point de vue médiatique, est une nécessité. Puisque c'est vrai que, à part historiquement un peu le tennis, on n'a pas de Roland Garros, où depuis très longtemps on voit le tennis féminin à la télévision. Roland Garros, en tout cas. Pour le reste, il faut reconnaître.
Mais c'est une épreuve mixte.
Il faut reconnaître, mais c'est une épreuve. Je veux dire, on voyait les
non,
deux
étaient les matchs de football féminin. Attention, ils sont diffusés sur M6, sur des chaînes.
Bien sûr,
sur
W9. Sur
W9.
Les gens peuvent les voir. Ça faisait 10 millions pendant la Coupe du Monde.
Ça passe pas inaperçu. Un match a fait beaucoup, mais globalement, ça avait marché.
Ça a bien marché.
En France, a bien marché. Là, encore une fois, il y a vraiment si ça avait eu lieu en Angleterre, en Allemagne, je pense que sans problème, M6 et W9 auraient continué, auraient diffusé. C'est là, c'est ce truc de diffuser le matin, tôt ou à midi.
C'est vrai,
comme
temps,
la Coupe du Monde en Corée du Sud, par exemple.
Oui, enfin, ce qui a quand même été diffusé, de mémoire, la Coupe. Enfin,
bien sûr.
Ce serait les mecs, on se poserait. Le truc, j'entends tout ce que tu dis et tu as raison, et sans doute que l'idée de Jérôme est évidemment le bon moyen pour régler le problème. Il y a toujours ce petit côté, ce serait la Coupe du Monde masculine, on se poserait pas la question des
horaires. Mais les horaires ne sont pas les mêmes, l'intérêt n'est pas le même.
Il y a quand même un progrès. Aujourd'hui, on parle du championnat de France féminin, qui suit pas un aficionados. À la radio, j'entends, j'entends ce qui se passe un peu dans le foot féminin, ce qui n'était pas vrai il y a encore 5, 6, 7 ans.
Ça, pourtant, personne regarde. Ça, c'est vraiment terrible.
C'est qu'on commence à en parler. L'équipe de France féminine, on la suit un peu, etc.
Aussi. Et là, c'est en juillet-août. Ouais. Franchement, en juillet-août, il y a un public qui peut être capable de regarder la télé.
Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Non. Si une entreprise privée n'a pas envie de mettre 15 millions sur la table, parce qu'elle estime que ça va être un gouffre financier, vous pouvez me convaincre autant que vous voulez. C'est pas moi qui va sortir le
nez. Si la FIFA risque entre 15 millions et zéro, ils vont peut-être choisir 10 et là, le service public pourrait peut-être faire.
Oui, mais s'ils font ça à chaque fois, tous les OPI vont revenir dessus.
La prochaine fois, ils feront le package et ils ne feront pas avoir. Jérôme a raison.
Le package, c'est une très bonne idée. La consultation du jour.
Consultation en ligne sur le projet de voie réservée au covoiturage, au transport collectif, au taxi, sur le périphérique parisien. Projet porté par la mairie de la capitale. Donc il y avait une consultation en ligne. Résultat, un fiasco. Seulement 6100 avis ont été publiés. Alors qu'un million et demi de véhicules empruntent quotidiennement cette voie. Et 80% des contributeurs expriment leur opposition à ce projet.
Évidemment.
Reste que ce projet ira bien à son terme, d'après la mairie de Paris. La voie réservée aux athlètes, organisateurs et personnels médicaux pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sera bien pérennisé au-delà pour accueillir taxis, bus et covoitureurs.
Fallait s'y attendre. Jérôme Larue, est-ce que c'est scandaleux en fait d'organiser un vote et puis de faire tout le contraire du résultat du vote?
Mais je comprends pas pourquoi ils font un vote.
Ben c'est ça, on comprend.
Moi, je suis contre pour ces consultations très régulières. Parce que déjà, et si ça avait été 6400 votants et qu'ils avaient dit oui, je suis à fond d'accord avec. C'est pas représentatif. Si on fait des élections, c'est.
Mais c'est aux gens d'aller se déplacer, ça.
Non, mais moi, je suis désolé. Si je vote aux élections municipales, c'est que je confie à une équipe municipale le soin de gérer la commune pendant les 6 ans. Et si à la fin, je ne suis pas bien d'accord avec eux, ben, je les bats et je les change. Ça s'appelle la démocratie représentative. C'est bien mieux que de faire une consultation bidon. Alors, il y a des mairies qui le font, mais ils s'arrangent. Quand on a envie qu'il y ait du monde qui se déplace, il y a du monde qui se déplace. Quand vous avez 15 000 habitants et que vous avez 5 000 votants, ça représente quelque chose. Là, 6 000, c'est que vraiment, il y a des types qui ont trouvé l'info, parce que on a fait exprès de le cacher. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'ils savaient à l'avance. Et de toute façon, ils en avaient rien à secouer. Ils allaient s'asseoir sur la consultation, donc il fallait pas la faire.
Que Anne Hidalgo n'en a rien à secouer, ce que pensent les Parisiens. Non, c'est pas.
Bah ouais, mais elle est réélue à chaque fois.
Je sens quand même.
Moi, je pensais quand il y avait un vote, on s'y pliait.
Elle a été réélue deux fois.
Oui, mais moi, je me rappelle.
Avec pourtant pas la majorité du nombre de voix.
Mais ça, c'est le problème d'un scrutin. Ça, c'est le problème du scrutin.
C'est pas très grave.
C'est pas une nouveauté. Après, ça, c'est le problème. Moi, je me rappelle en 17, 18, 19, tout le monde nous expliquait qu'il fallait quasiment qu'Hidalgo se présente pas parce que c'était même pas la peine qu'elle aille au casse-pipe. Elle a été réélue. Le problème, c'est qu'elle malgré tout, elle dirige surtout, en fait, pour les Parisiens, qui est emmerdé sur le périph. C'est les gens de la banlieue, c'est les gens d'Île-de-France, c'est les gens de la province.
Elle a fait 2% à Paris à la présidentielle. Ça reste un mystère.
Mais c'est comme ça.
On peut tourner le truc dans tous les sens. Sa présence reste un mystère.
Il n'y a pas de rapport entre scrutin municipal et scrutin présidentiel. Je suis sûr que Jérôme pourrait citer des tonnes de communes qui votent à droite tout le temps, sauf au municipal et votent à gauche. Et réciproquement d'ailleurs, il y a c'est un scrutin toujours très particulier.
Je m'empêcherai pas de trouver ça mystérieux.
Après, effectivement, on fait pas un scrutin.
Parce qu'ils l'aimaient tellement qu'ils avaient peur qu'elle devienne présidente de la République. Ils n'ont pas voté pour elle pour la garder.
Mais en tout cas, effectivement, quand on demande aux gens de voter.
Je ne sais pas.
Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut rénover la démocratie représentative, mais je reste attaché à la démocratie représentative. Par contre, à partir du moment où on demande aux gens de voter, on va leur dire, d'accord, vous avez voté, mais comme vous n'êtes pas assez nombreux et que vous n'avez pas voté comme je voulais, je m'assois sur votre vote. Il fallait mieux, effectivement, ne rien leur demander. À la mise en ce programme, elle le fait. Ça se défend. On peut être pour ou contre. On pourra d'ailleurs faire un débat dessus. Mais on ne va pas demander l'avis aux gens pour dire, finalement, je m'assois dessus.
L'inauguration du jour.
Inauguration aujourd'hui de la première giga-usine de batteries électriques en France. Ça se passe dans la ville de Douvrin, on est dans le Pas-de-Calais. Le site qui appartient conjointement à Mercedes, Stellantis et Total Energy représente plus de 8 milliards d'euros d'investissement et 2000 emplois à terme.
C'est une bonne nouvelle ça, Jérôme Lavrieux.
Et puis en plus c'est dans la bonne région, celle qui me plaît le plus, c'est la région des Hauts-de-France. Ce qui montre que on a toujours tendance à dire le gouvernement fait rien, les pouvoirs publics font rien. Si ça se fait tout ça, toutes ces usines qu'on annonce et qui la ouvrent concrètement, c'est parce qu'il y a eu une vraie décision politique de concentrer les investissements, les aides pour le faire et de faire en sorte qu'il y ait une sorte de microclimat qui soit favorable, comme on a eu la Silicon Valley en Californie. Là, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'Automobile Valley. Et pour une fois, on va essayer de rattraper notre retard.
Il faudra trouver des gens après pour y travailler. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous qui vous occupez des chômeurs et des précaires, Pierre-Édouard Magnan, ça fait du boulot.
Évidemment que c'est une bonne nouvelle. Surtout qu'en plus, vu le niveau de l'investissement à 8 milliards, on peut imaginer qu'il s'installe pour un certain temps. Parce qu'il va falloir un peu de temps quand même pour rentabiliser. Et comme ces gens-là ne sont pas des philanthropes, ce qui n'est pas un reproche en la circonstance, on peut imaginer que ça va durer un certain temps. C'est sans doute effectivement au bon endroit. Donc c'est très bien. On crée de l'emploi industriel qui en plus entraîne de la sous-traitance, entraîne des familles. Enfin, on rentre dans un cercle vertueux quand on fait ça.
Il y a deux doigts de défendre la mondialisation. Fais attention, freine.
Je n'ai pas à défendre. Attaquer la mondialisation, elle existe. Et d'ailleurs, elle existe depuis des siècles, la mondialisation. Et tu parles à l'historien. Donc, il faut essayer de faire au mieux pour les gens qui la subissent, pour qu'au moins ils la subissent positivement, ce qui avait le cas des 2000. Non, mais généralement, on peut être contre la mondialisation. Tu sais, je suis aussi contre la famine et, contre le travail des
est-ce
enfants.
Est-ce que tu es contre la guerre aussi?
Aussi, oui, ça m'arrive. Ouais. Contre la guerre.
Moi, ce qui m'étonne, c'est quand même qu'on n'arrête pas de nous dire que, en fait, ces batteries polluent et que finalement, l'électrique, c'est pas si bien que ça. Et donc, on est toujours en retard. Donc, on ouvre évidemment une giga usine de batterie. Donc, non, mais ça, excusez-moi, mais ça pose quand même question.
Qu'on est en train de trouver les plus gros gisements qui existent.
Dans le Nord
en Alsace, sur la matière première.
Les
gisements estimés, ça permettrait de couvrir 50% des besoins français.
C'est déjà pas mal. Si on avait 50% de nos besoins en pétrole, on n'aurait pas eu de problème pendant des décennies. Donc, c'est plutôt pas mal de le faire.
On n'a pas de pétrole, mais on a du lithium.
Oui, d'accord. De toute façon, si elles ne se font pas là, elles se feraient ailleurs, et elles pollueraient ailleurs, pour le peu qu'elles vont
polluer. Alors, polluons chez nous. Ah oui, ce serait dommage.
Après, c'est un débat. Moi, je viens de cette région. Rémi aussi vient de cette région. C'est eux qui ont payé le plus gros sacrifice.
On a eu le charbon maintenant.
Avec la fin de l'industrie en France.
C'est ça,
c'est un juste retour des choses.
Maintenant, c'est les batteries électriques. Voilà. Ce sera du lithium.
C'est moi. Oui, c'est-à-dire, on n'avait pas de pétrole, on a du lithium.
Voilà.
On n'a plus d'idée, mais on a du lithium.
Ils changeront la chanson. Voilà.
Ouais.
Au Nord.
C'était le lithium.
Ce sera le lithium.
Allez.